Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Gabriel Attal, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, les 10 et 24 avril prochains, 2022, élection présidentielle. Vous confirmez les dates?
Alors, c'est une date qui sera annoncée, confirmée la semaine prochaine, a priori. Mais c'est un scénario très, très sérieux et une piste très sérieuse.
Non, c'est pas une piste, ce sont les dates, quoi.
Ça sera au printemps.
Qui seront confirmées la semaine prochaine.
Ça sera au printemps prochain. Ça peut difficilement être le 1er et le 8 mai pour des raisons évidentes. Oui. Et donc, ce sera annoncé la semaine prochaine.
Mais c'est 10, 24 avril.
C'est une piste très sérieuse.
Très sérieuse. Mais pourquoi ne pas me dire oui?
Parce que moi, je respecte les fonctionnements démocratiques. Okay. Ça doit passer, je crois, en Conseil des ministres. Bon. C'est le cas la semaine prochaine.
Bon, d'accord.
J'annonce les choses quand elles sont confirmées.
Bon,
c'est
donc,
important en tant que porte-parole.
Dans 291 jours, 9 mois et demi, la présidentielle. C'est rapide, ça va arriver vite. Pourquoi ces dates plutôt que d'habitude? À cause du 1er mai et du 8 mai?
Je vous disais à l'instant que dans le choix qu'on sera amené à faire et à confirmer, il y a le fait qu'il y a un 1er et un 8 mai qui tombe le dimanche. Évidemment, on prendra des décisions qui permettent au plus grand nombre d'aller voter, puisque c'est un enjeu important, on va peut-être y revenir.
Je vais y revenir, oui.
C'est évidemment très important.
Je vais revenir sur les résultats des régionales, sur l'abstention. Mais Conseil de défense sanitaire, aujourd'hui, doit-on s'inquiéter du variant Delta, le variant indien? Franchement.
Il doit nous préoccuper. Il y a une vigilance absolue autour du variant Delta, dont on sait maintenant qu'il est plus contagieux, encore plus contagieux que le variant dit anglais, qui était déjà plus contagieux que le premier. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni, où vous avez une hausse continue maintenant depuis plusieurs semaines des cas. Je crois qu'ils ont franchi les 10 000 cas par jour en moyenne en Grande-Bretagne.
90% des cas sont des cas de variant Delta, d'Inde.
Ils étaient il y a quelques semaines à quelques centaines de cas en moyenne par jour. Donc on voit que ça peut aller très vite. Et donc il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'on a mis en place un calendrier en France progressif de lever des restrictions. Qu'on franchit étape par étape. La dernière, vous le savez, aura lieu le 30 juin. Mais ça demande une vigilance individuelle et collective.
Reprise possible de l'épidémie?
Par principe, évidemment. Alors après, on a une arme dont on ne disposait pas.
La menace est réelle?
Il y a une menace liée au variant Delta, mais on a une arme dont on ne disposait pas il y a un an, c'est la vaccination. Le vaccin, c'est quand même une arme qui permet de protéger contre l'épidémie. Et plus on continuera à se faire vacciner, plus les Français iront se faire vacciner, plus on se donnera la capacité de se protéger vis-à-vis de l'épidémie et de ses variants.
Sauf que les Britanniques sont vaccinés.
Il y a une stratégie qui a été différente.
Ils sont vaccinés et ils sont touchés par le variant.
Oui, j'entendais Karine Lacombe ce matin sur l'antenne de RMC qui disait elle-même que là-bas, il y avait eu au départ un espacement très important entre les deux doses, que ça avait peut-être joué, ce qui n'est pas un choix qu'on a fait, en tout cas pas dans ces proportions-là en France. Voilà, on a toujours été très vigilants et précautionneux.
Oui, vaccination qui ralentit en France.
Par définition, vous avez de plus en plus de gens qui sont vaccinés. Ceux qui restent sont ceux qu'il faut aller chercher.
Mais alors, comment allez-vous faire pour les remobiliser, pour les mobiliser?
On va continuer à communiquer, continuer à l'échange qu'on a là et le risque qui existe. Et le fait de rappeler que la vaccination est une arme importante, c'est évidemment un enjeu. Et puis, on a donné, Olivier Véran a donné des souplesses d'organisation pour les vacances. Il y avait des Français qui hésitaient à se faire vacciner en se disant... Ma deuxième dose va tomber peut-être au mois d'août, je ne sais pas où je serai, etc. Il a donné de la souplesse en termes d'espacement entre les deux doses, en termes de capacité à faire sa deuxième dose ailleurs que là où on a fait la première. Voilà, on donne plein de marge pour encourager la vaccination, notamment chez les jeunes.
Le télétravail, retour à la normale le 30 juin?
Ça fera partie de ce qui sera discuté en Conseil de défense et avec les partenaires sociaux. Il y a déjà une première étape d'assouplissement, puisque c'était très dur aussi pour beaucoup de Français d'être tout le temps chez eux. Il y en a qui souhaitaient retourner au travail, ils pouvaient déjà y aller une journée. On a assoupli encore et évidemment, dès qu'on le pourra, dès qu'on considérera que la situation sanitaire le justifie, on continuera
La situation sanitaire le justifie?
Aujourd'hui, on voit que les voyants sont au vert.
Les voyants sont au vert. Donc retour à la normale le 30 juin.
Je vais vous dire, c'est pas parce que les voyants sont au vert qu'il faut griller des feux. Voilà.
Oui.
Il faut quand même continuer à faire attention. Encore une fois, il y a une menace.
Une quatrième vague est possible.
On le disait tout à l'heure. Évidemment. Et moi, je suis porte-parole du gouvernement depuis un an dans cette crise sanitaire. J'ai bien appris qu'il ne faut jamais rien exclure par principe pour l'avenir, Jean-Jacques Bourdin.
L'assurance chômage, le Conseil d'État suspend les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage. Donc, elle ne s'appliquera pas. Le 1er juillet.
Pas à partir du 1er juillet, oui, comme c'était prévu.
Pas à partir du 1er juillet. Mais quelle réponse apportez-vous ce matin au Conseil d'État?
La réponse que je leur apporte, mais qu'on va leur apporter très directement, c'est le témoignage prouvé par des faits que la reprise économique est là et que les signaux économiques encourageants sont là. Parce que c'est ça, c'est d'ailleurs assez un peu étonnant.
Incertitude dans la situation
décision
économique, dit le Conseil d'État.
Parce qu'en gros, le Conseil d'État dit il n'y a pas de sujet, on ne relève pas de problème de fond sur la réforme. On relève pas de difficultés de droit sur la réforme. Il diffère l'entrée en application de cette réforme parce qu'il considère qu'il y a trop d'incertitudes sur la situation économique pour qu'elle puisse rentrer en vigueur aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs semaines et au fur et à mesure qu'on lève les restrictions? C'est que l'économie repart. Elle repart bien, elle repart fort. C'est qu'il y a des opportunités d'emploi qui, chaque mois, chaque trimestre, se créent dans notre économie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 215 000 emplois vacants. On cherche 120 000 personnes dans l'hôtellerie, la restauration et le commerce. On cherche 70 000 personnes dans le tourisme. On cherche des dizaines de milliers de personnes dans l'agriculture, dans le bâtiment. Et donc, c'est des opportunités. Et donc, c'est cohérent avec la réforme de l'assurance chômage qu'on a proposée.
Pour inciter les Français à aller travailler, puisqu'il y a du travail.
Le cœur de la réforme.
On réduit l'assurance chômage.
Non, je vais vous dire, le cœur de la réforme.
Les droits des chômeurs.
Le cœur de la réforme de l'assurance chômage, c'est quoi? C'est de constater qu'on est en France les champions d'Europe des contrats courts. On a 10 fois plus de contrats courts, de CDD parfois de quelques jours, ça a augmenté de 250% depuis 15 ans, que dans le reste de l'Europe et qu'en Allemagne notamment. Et que c'est un sujet de précarisation pour les travailleurs. Quand vous avez des travailleurs qui ont des petits contrats courts de 5 jours qui les multiplient, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu en période de pandémie, quand il n'y a plus d'activité, ils se retrouvent dans la difficulté. On a dû mettre en place des dispositifs spécifiques pour eux. Donc il faut lutter contre ces contrats courts et faire en sorte que les salariés dans notre pays puissent avoir des contrats plus robustes, plus longs. Et donc il y a un bonus-malus pour les entreprises, pour les encourager à donner des contrats plus longs. Et effectivement, il y a une mesure qui consiste à dire que on doit toujours être mieux rémunéré quand on travaille que quand on est au chômage. Et donc c'est ça le sens de notre réforme.
Donc
et c'est
on ça est qu'on moins va... rémunéré au chômage, ça incite à aller travailler, c'est ce que vous voulez dire.
C'est pour que le travail soit plus valorisé
moins
que l'inactivité.
Moins de chômage et plus on doit avoir envie d'aller travailler, c'est ce que vous dites.
Il faut que travailler soit toujours plus valorisé que ne pas travailler. C'est le cœur du projet d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va rogner sur les droits. On ne peut pas nous accuser de rogner sur les droits des chômeurs. Il y a 700 000 chômeurs en fin de droit qui auraient dû voir leur allocation s'arrêter depuis presque un an. On les a prolongés mois après mois et donc ils ont pu continuer pendant cette crise à recevoir leurs allocations chômage. C'est parce que précisément, on a une attention toute particulière contre la précarité. On a mis en place le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de continuer à recevoir leur rémunération, à ne pas être licenciés. On a mis en place des aides financières pour les personnes qui sont aux minima sociaux, des aides exceptionnelles de plusieurs centaines d'euros pour qu'elles soient accompagnées dans cette crise. Donc la priorité à la lutte contre la précarité, à l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté, elle est là. Mais c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi.
Alors que va devenir cette réforme, Gabriel Attal?
On va répondre au Conseil d'État avec les données dont
elle
on dispose.
Elle sera reprise?
Évidemment, l'objectif c'est qu'elle s'applique. Qu'elle s'applique dans les prochains mois.
Voilà. Dans les prochains mois. Avant la fin du quinquennat.
Avant la fin de l'année même.
Avant la fin de l'année. C'est l'une des réformes majeures, si j'ai bien compris, du quinquennat. Hein, on est bien d'accord.
Oui, mais c'est
comme la réforme des retraites.
Mais c'est une.
C'est une
réforme, en tout cas, qui est cohérente, Jean-Jacques Bourdin, avec notre projet, qui est de valoriser le travail dans notre pays.
Valoriser
et notre conviction que les Français ont envie de travailler et qu'ils ont envie de travailler dans des bonnes conditions.
La réforme des retraites, vous en êtes où? De la réflexion.
Vous savez qu'on avait engagé.
Est-ce qu'elle va être reprise ou pas? Sous quelle forme?
Vous savez qu'on avait engagé une réforme qui a été portée devant le Parlement.
Oui.
Une réforme d'ampleur.
On a suivi.
Il y a eu la pandémie.
Qui a fait réagir.
Qui a suspendu l'examen de cette réforme. Il reste 10 mois d'ici à la fin du quinquennat. La question, c'est est-ce que, alors qu'on n'a évidemment pas renoncé à notre ambition de réformer les retraites.
Est-ce que vous allez reprendre une réforme ou pas?
Voilà, c'est ça la question qui se pose.
Alors,
en tout cas, avant la fin
quelle
du
est la
quinquennat.
Réponse
l'arbitrage n'est pas rendu encore. Il y a des discussions et des travaux qui sont faits au sein du gouvernement. Il va y avoir aussi des échanges avec les partenaires sociaux qui auront lieu au début du mois de juillet.
Et puis, les partenaires sociaux ont déjà dit non. On ne reprend pas une réforme des retraites.
On peut quand même échanger et discuter. Moi, j'entends aussi des partenaires sociaux qui disent et qui rejoignent le constat qu'il faut une réforme. Alors, certains disent il faut une réforme, mais il la faut pas tout de suite. Bon, on va discuter avec eux, on va échanger avec eux. Je pense qu'on peut s'accorder sur le constat qu'on avait un système par répartition qui était fragile avant la crise, que la crise ne l'a pas particulièrement renforcé. Il n'est pas financé à moyen terme. Il y a un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été remis. Moi, je pense aussi à ma génération. On a envie de pouvoir bénéficier d'une retraite par répartition plus tard. Oui. Ça arrivera dans un certain temps, mais ça nécessite de prendre des décisions maintenant et de sauver notre système aujourd'hui.
Donc, il faudra travailler plus. Vous parliez tout à l'heure de travail. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est l'encouragement au travail, si j'ai bien compris. Oui. Donc il faudra travailler plus.
Évidemment, ça me semble de bon sens et logique. L'espérance de vie s'allonge.
Allonger
L'espérance de vie s'allonge. Maintenant, Jean-Jacques Bourdin, tout le monde ne doit pas travailler aussi longtemps les uns que les autres.
De départ à la retraite.
Il n'y a pas de décision prise à ce stade sur ce sujet.
Bon, vous connaissez l'entreprise MBF ?
Dans le Jura.
À Saint-Claude ?
Oui.
Vous avez vu ce qui s'est passé ?
Mais il se trouve que j'étais en déplacement dans le Jura il y a quelques semaines et que j'ai rencontré l'intersyndicale.
Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé ?
Oui, j'ai vu. La liquidation a été prononcée par le tribunal.
Tout le monde est sur le carreau.
Ouais.
Rien.
Bah, d'abord, moi, je veux dire...
La région n'a rien fait. L'État n'a rien fait. J'ai lu la déclaration du maire de Saint-Claude. Il dit la ville est en deuil. En deuil. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ?
Je vais vous dire, déjà...
Est-ce que l'État va intervenir ?
Oui, je comprends et je partage l'émotion. C'est une région, un territoire qui est déjà sinistré.
Oui.
Un territoire industriel qui est déjà sinistré.
Oui.
Deuxième chose, il se trouve que j'ai rencontré l'intersyndicale quand je me suis rendu dans le Jura il y a quelques semaines. C'est des femmes, des hommes admirables, remarquables, qui ont travaillé, qui ont cherché des solutions, qui ont modernisé leur outil.
Paris nous abandonne.
Qui ont modernisé leur outil de production. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Jean-Jacques Bourdin, c'est quand vous dites « personne n'a rien fait ». C'est pas vrai. L'État a accompagné, a aidé à chercher un repreneur. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Et je vais vous dire, alors même qu'on est dans des élections régionales, etc., même la région a cherché à trouver des solutions, puisque pendant plusieurs semaines, ils ont payé eux-mêmes les salaires des salariés, des travailleurs, pour tenir et essayer de trouver un repreneur. Il n'y a pas de repreneur qui a été validé. Et évidemment que c'est un drame et qu'on le déplore. On va accompagner les salariés. On a un fonds dédié de plusieurs dizaines de millions d'euros pour ça, pour les accompagner financièrement, pour les accompagner en termes de formation, pour qu'ils puissent retrouver un emploi. C'est évidemment très difficile et c'est évidemment beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse pour ce territoire et bien au-delà, mais on va pas lâcher l'affaire et on va continuer à les accompagner évidemment.
Les régionales, l'abstention très forte dimanche dernier, est-ce que la démocratie française est malade ? Je vous pose franchement la question, est-ce qu'elle est malade ?
Je crois qu'on peut dire que oui, évidemment. Quand on a un tel niveau d'abstention, ça veut dire qu'on engage le pronostic vital de notre démocratie quelque part. Quand on a des niveaux aussi... Un niveau aussi abyssal d'abstention.
Je me souviens de cette phrase d'Albert Camus. Lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles.
Oui, je pense que un tel niveau d'abstention met en péril la démocratie. D'abord parce que quand on s'abstient, c'est sûr qu'on ne fait pas de choix dans une élection, mais c'est d'autres qui font un choix pour nous.
Je suis content d'entendre le porte-parole du gouvernement dire cela ce matin parce que je n'ai pas entendu le président de la République. Ouais. Pas un mot depuis dimanche. Dimanche soir, je n'ai pas entendu le Premier ministre. Pourquoi ? Ces élections régionales ne vous intéressent pas au sommet de l'État ?
D'abord, vous avez entendu, depuis 2017, en permanence, le président de la République dire qu'il fallait renforcer le lien des Français avec la démocratie et tout mettre en œuvre, y compris avec des outils très pratiques, on y reviendra peut-être, pour favoriser le recours au vote. On a proposé de moderniser les institutions, les oppositions nous ont bloqués dans la réforme institutionnelle. On a proposé de moderniser la manière de voter, avec une expérimentation, par exemple, du vote par anticipation. Il y a quelques mois, le Sénat nous a bloqués. On
le
est
texte
favorable.
Était mal préparé, vous le savez bien, Gabriel.
Oh oui, ça c'est l'excuse qu'ils ont donnée pour bloquer notre réforme. Voilà. Et je vais vous dire, à chaque fois, quand le président s'exprime, quand il y a des scrutins locaux, on dit il n'a pas à s'ingérer dans les scrutins locaux.
C'est extraordinaire. Donc, si j'ai bien compris, pour favoriser la participation, vous voulez qu'on modifie finalement la manière dont on vote. Comment ? Peut-être un vote obligatoire, non ?
Moi, j'ai jamais. Enfin, le débat peut avoir lieu, mais j'ai jamais été très favorable. Moi, je pense qu'il faut convaincre les gens d'aller
vote
voter
sur plusieurs
plutôt que
jours.
De les forcer.
Vote sur plusieurs jours.
Mais il faut être très ouvert et pour le coup avoir une vraie discussion transpartisane avec l'ensemble des formations
sur Internet
politiques sur cette question-là. Moi, je suis favorable au vote électronique, je le dis.
Et le ministre de l'Intérieur dit non à tout ça. J'ai entendu encore.
C'est pour ça qu'il faut avoir une discussion. Je vais vous dire ce qu'il y a.
Oui.
Peut-être achevé de me convaincre. On n'en a pas beaucoup parlé en France.
Allez.
Il y a quelques semaines, on a eu des élections qu'on appelle des élections consulaires, c'est-à-dire que les Français de l'étranger qui habitent en dehors de France ont élu leurs représentants. Pour la première fois, ils l'ont fait avec un vote électronique. Bah, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de contestation particulière.
Et le taux.
Les votes ont eu lieu. J'ai pas le taux de participation qui avait lieu, mais ça serait intéressant de le regarder.
Il est très bas. Moi,
effectivement.
Je l'ai.
Oui, bon,
il
après,
est très
c'est, bas. Sur les élections des Français de l'étranger, on a souvent un taux de participation qui est assez, qui est assez
20,
faible.
20% de participation.
Mais on a souvent un taux aux différentes élections Français de l'étranger,
et
vous
le
savez,
par
qui est faible. C'est aussi une piste qui peut être regardée, mais moi, je suis plutôt favorable au vote électronique. Mais vous savez, dès la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé sur ces questions-là.
Est-ce
il
que
avait
le
fait
président
des propositions.
De la République...
Mais à chaque fois qu'on fait des propositions depuis le début de ce quinquennat, les oppositions le bloquent. Elles veulent voter comme on votait il y a 100 ans
Est-ce
et elles
ne
veulent pas regarder vers
le va s'exprimer sur ces élections. Parce qu'on a l'impression que ça, qu'il passe au-dessus, que ça ne l'intéresse pas. Mais vous savez l'impression que ça donne. Ça donne l'impression qu'il ne s'intéresse pas aux Français. Et c'est ce que ressentent aussi les Français.
On va pas rentrer dans des exagérations.
Je vous dis. Est-ce qu'il veut s'exprimer ?
Je vais vous dire, le président, à chaque fois qu'il s'exprime sur les élections, je viens sur votre plateau ensuite et on me dit, mais est-ce que c'est le rôle du président de la République de parler des élections locales ? Il s'ingère dans les élections, etc. Je veux dire, le président, il s'exprime régulièrement, il s'exprime à l'occasion de déplacements, il s'exprime parfois et souvent aussi en réponse aux questions des journalistes, donc évidemment qu'il va continuer à s'exprimer.
Bien, pourquoi cette gifle électorale à La République En Marche, donnée à La République En Marche ?
On disait à l'instant, il y a eu une très faible participation, historiquement faible. Et on sait qu'un tel contexte, ça favorise les sortants. Et ce que vous voyez partout, c'est que ont été nettement en tête de ces élections les sortants, ceux qui étaient en place dans les régions.
Ça veut dire que vous ne donnez pas envie de participer ?
Ça veut dire qu'on a du boulot en termes d'implantation locale pour La République En Marche. Mais c'est évident, je veux dire, on n'existait pas aux dernières élections régionales en 2015. Ça prend du temps de s'implanter sur les territoires. Moi, je vais vous dire quelque chose que je constate qui est intéressant, c'est que quand vous regardez, là, on fait les meilleurs scores, on va dire, nos meilleurs scores, c'est souvent dans des villes.
Moins mauvais.
Voilà, c'est souvent dans des villes où on a fait des bons scores au municipal, on a eu des élus au municipal. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est des élus locaux de La République En Marche, on en a, je crois, environ 10 000 en France, qui font un travail d'implantation locale ensuite, qui montrent à leurs administrés qui sont là, qui font le boulot et qui leur donnent envie de voter pour notre mouvement politique ensuite aux élections suivantes. Donc ça se construit progressivement. Là, vous avez un tel niveau d'abstention, qu'est-ce qu'on constate ? Les régions qui étaient dirigées par la droite, c'est les présidents de conseils régionaux de droite qui sont en tête, les sortants. Puis les régions qui étaient dirigées par la gauche, c'est les présidents de conseils régionaux de gauche, les sortants, qui sont en tête. Et on ne peut pas dire que ni la droite ni la gauche n'aient fait de grandes performances dans les régions qu'elles ne dirigeaient pas.
Humiliation pour Éric Dupond-Moretti. Humiliation ou pas ? Non, faux. Il y a un ministre majeur qui se déplace, qui va se présenter dans sa région d'origine et qui n'atteint pas 10%.
Moi, je vais vous dire qu'un membre du gouvernement qui n'a pas de mandat local. Moi, il se trouve que j'ai un mandat local, je suis conseiller municipal à Vanves, dans ma commune. Un membre du gouvernement qui n'a pas de mandat local, qui veut aller se frotter à une élection locale. En plus, dans un territoire difficile, on le sait et vous le savez. Moi, je pense que ça doit être salué. Voilà. C'est évidemment difficile de se frotter à une élection. Ça peut être difficile en termes de résultats. C'est ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France. Mais je vais vous dire, moi, j'ai entendu depuis le début de ce quinquennat des gens, notamment dans les oppositions, des commentateurs nous dire « Ah, mais regardez, il y a des membres du gouvernement qui n'ont pas d'expérience politique, qui n'ont pas de mandat locaux. C'est la société civile, ils devraient avoir un mandat, etc. » Ils se présentent à des élections, on leur reproche. Non, ça doit être salué. Par définition, quand on se présente à une élection, si on se présente à une élection, que quand on est sûr de faire un bon score, on ne se présente jamais à une élection.
Et ils sont sanctionnés. Gabriel Attal, est-ce qu'il va y avoir un remaniement gouvernemental ?
Ça, j'en ai absolument
une idée. Est-ce qu'il faut un remaniement ?
Vous savez bien comment ça fonctionne.
C'est
il n'y a que le président et le
politique.
Premier ministre.
Oui, ça je sais. Vous souhaitez ?
Moi, je n'ai pas à souhaiter un remaniement. Moi, ce que je constate, c'est quoi ? Alors vous allez me dire, c'est langue de bois, etc. Mais on a un gouvernement qui est au travail.
Oui.
On lève les restrictions les unes après les autres. Et surtout, on agit pour la reprise économique du pays et pour la reconstruction du pays. On avait commencé à le faire avant la deuxième vague, avec ce gouvernement, avec ce Premier ministre. Et moi, je pense qu'il faut qu'on continue à le faire de manière très forte dans les semaines et les mois qui viennent. Vous savez, là, si on sort durablement de la crise sanitaire, comme on l'espère cet été grâce à la vaccination, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les pays dans le monde vont se lancer dans la bataille de la relance. Tout le monde va vouloir capter les nouveaux talents, les nouveaux investissements, être le lieu où ça rebondit le plus vite et le plus fort. Et nous, il ne faut pas qu'on perde de temps dans cette bataille-là. C'est pour ça qu'on fait le plan de relance, c'est pour ça qu'on fait tout pour que l'économie reparte, parce qu'il faut que la France, ça soit là où ça se passe en termes économiques, ça soit des opportunités en termes d'emploi pour les Français. Et c'est ça, aujourd'hui, notre seule priorité, et c'est la priorité de ce gouvernement.
Oui, et la priorité, c'est de ne pas oublier les Français qui, eux, se sentent oubliés, qui peut-être ne vont pas voter. Dites-moi, que dites-vous ce matin à ceux qui déjà expliquent que le second tour n'opposera pas Emmanuel Macron à Marine Le Pen ?
Une élection n'est jamais jouée à l'avance, par principe. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui disaient que le second tour de l'élection était déjà prévu, alors même que le premier tour n'a pas eu lieu. Je vais vous dire, moi, je rêve d'un second tour sans Marine Le Pen. Évidemment, un second tour avec Emmanuel Macron, mais sans Marine Le Pen. C'est aussi le cœur de mon engagement politique que de lutter contre ces idées-là et contre parfois des valeurs nauséabondes qui sont relayées par les élus du Rassemblement National, du Front National. Et donc, il y aura une campagne présidentielle, il y aura une élection, mais personne ne peut dire que le second tour est prévu d'avance.
Votre combat majeur, c'est le combat contre le Rassemblement National, on est bien d'accord.
Mais évidemment, alors, des combats pour Jean-Jacques Bourdin, on parlait tout à l'heure du travail, des valeurs de la République. Mais je vais vous dire, moi, si j'ai un adversaire, peut-être plus que les autres, dans la vie politique,
alors,
c'est le Rassemblement National.
En Bourgogne-Franche-Comté, vous ne vous retirez pas ?
En Bourgogne,
je ne comprends pas.
En Bourgogne-Franche-Comté,
je ne comprends pas.
Jusqu'à preuve du contraire, c'est la présidente sortante socialiste qui est en tête, premièrement.
Oui.
Deuxièmement,
de peu devant le candidat du Rassemblement national.
Deuxièmement, on lui a proposé un rassemblement sur la base de priorités, notamment oui. la relance économique. On parle de la région dont on parlait tout à l'heure, oui, et de l'usine MBF. Tout voilà, donc on a proposé qu'on se mette ensemble autour de la table et qu'on travaille à des priorités économiques. D'autant qu'elle s'est dite Macron compatible il y a quelques mois ou quelques temps. Elle l'a refusé, elle a préféré faire une alliance avec l'extrême gauche et les communistes. Bon, cette alliance, si on fait arithmétiquement les choses, ça la met sur le papier 15 points au-dessus du Rassemblement national à l'issue du premier tour, quand on additionne les scores. Donc il n'y a pas de risque, on peut dire, avéré, pas autant en tout cas que dans la région sud, où là on a pris nos responsabilités.
À vos yeux.
Alors, je disais à l'instant que les élections ne sont jamais jouées par avance, donc oui. je ne peux pas vous dire qu'il n'y a aucun risque. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on retire notre liste. Et Denis Turiot, notre candidat, qui est remarquable, qui est le maire de Nevers, qui a une expérience d'élu local, avec son équipe qu'il a constituée, qui a une vraie pluralité politique, qui a un large rassemblement, il a évidemment toutes les raisons de continuer sa campagne.
Merci Gabriel Attal. Vous regarderez notre débat demain matin, 8h30, 9h30.
Je réfléchis à ce que j'ai demain matin, mais oui, je pense que je pourrais.
Thierry Mariani, Renaud Muselier.
C'est un débat
sur
important.
BFM TV, oui, 8h30, 9h30 demain matin, oui. sur BFM TV, RMC, BFM DC.
J'espère que vous demanderez à monsieur Mariani d'expliquer sa position et son soutien au régime azéri face à ce que subissent le peuple arménien, ce que subit le peuple arménien depuis maintenant plusieurs mois, qui est très grave. Et pour le coup, monsieur Mariani a toujours été en soutien du régime azéri et je pense qu'il devrait pouvoir s'expliquer là-dessus.
8h54, merci Gabriel Attal d'être venu nous voir sur RMC et BFM TV.